Il y a des moments où de l'extérieur, tout semble aller bien. Ton travail, ça va, ta vie est stable, tout est OK. Mais toi, tu sens à l'intérieur de toi que quelque chose grince. Tu sens un déphasage entre ce que tu montres et ce que tu vis en toi, entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Et la première chose qui te vient comme réaction, c'est de te questionner sur pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien. Pourquoi est-ce que malgré le fait que tout va bien à l'extérieur, toi, tu vas mal? J'ai reçu de nombreuses questions sur Instagram à ce sujet-là. Et aujourd'hui, cet épisode-ci est basé sur la réponse à ces questions. Avant de continuer, j'aimerais te dire ceci. Si tu te reconnais dans cette description, dans ce que je viens de dire sur le déphasage interne avec, par rapport à la vie qu'on vit à l'extérieur, j'ai publié un guide récemment intitulé « Essence » qui explore cet état qui te met les mots sur les conflits internes que tu vis quand tu ressens cela, qui te dit clairement ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là et ce qu'il faut faire pour en sortir. Le guide est offert. Et si tu veux le télécharger, le lien est dans la description de cet épisode-ci. Ce guide est le premier pas vers un travail plus grand, un travail profond sur soi pour retrouver, je ne vais pas dire son équilibre, mais son identité et sa maîtrise dans sa propre vie. Sans plus attendre, passons à la première question. Mais avant, je dirais ceci. J'ai reçu de nombreuses questions, comme tout à l'heure je l'ai dit, mais j'en ai sélectionné 6. Cet épisode-ci portera sur la réponse à 5 questions. La 6e question sera pour le prochain épisode. Autre disclaimer, si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu me verras très souvent baisser les yeux. Je ne regarde pas le sol, je ne regarde pas mes pieds. Je regarde mon ordinateur qui est sur moi pour m'assurer que je lis les questions textuellement. Donc, la première question. Que faire quand on se rend compte qu'on fait actuellement le bon choix au bon moment, mais dans le mauvais environnement? Je vais reformuler pour qu'on puisse comprendre le conflit intérieur. Le sentiment d'avancer dans la bonne direction, mais entouré des mauvaises conditions. Ici, on a 3 éléments. On a le choix, on a le moment, on a l'environnement. Le choix est bon, le moment est bon, l'environnement est mauvais. Qu'est-ce que ça signifie? Si l'environnement est devenu mauvais, ça signifie qu'aujourd'hui, tu es en décalage avec cet environnement-là. Et certainement, tu étais à l'aise dedans parce que c'est celui dans lequel tu as baigné. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Tu arrives à faire des choix différents qui te conviennent, pour que tu aies le bon choix, qui ne sont plus alignés à cet environnement, ce qui pose problème. La vérité, c'est que généralement, quand on parle comme tu parles, quand tu dis bon choix, bon moment, mauvais environnement, tu te sens rattaché à l'environnement, certainement par loyauté. Ce sont les gens avec qui j'ai grandi, c'est ma famille, ce sont mes amis, ce sont mes collègues. On a partagé quelque chose, je leur dois bien le fait de rester dans cet environnement-là. En réalité, non. Sortir de l'environnement ne veut pas dire claquer la porte aux gens qui en font encore partie. Ça veut dire compartimenter. Tu sais quelle part de ta vie tu leur accordes et tu sais quelle part de ta vie n'est plus en phase avec eux. Ils appartiennent à une phase de ta vie qui ne sera plus la phase prioritaire. Parce que si tu veux évoluer, il faut bien que tu puisses laisser cela derrière toi, d'une certaine manière. Si le choix est bon, le moment est bon, crée un environnement dans lequel tout ça s'insère, s'intègre. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails sur le choix, sur le moment et sur l'environnement. J'aurais pu être plus clair, mais je vais clôturer cette question en disant ceci. L'environnement est mauvais parce que tu as évolué. En soi, il n'est pas mauvais. Ce qui le rend mauvais, c'est le déphasage que tu as avec lui. Le choix que tu dois faire, c'est est-ce que tu acceptes de rester derrière par loyauté pour cet environnement-là Ou alors, est-ce que tu fais l'expérience de cet environnement de manière différente? C'est-à-dire que tu compartimentes. Il appartient à une partie de ta vie, celle où ces personnes-là, cet environnement-là, peut encore avoir une petite place. Mais toi, tu continues d'avancer. Tu ne claques pas la porte, mais tu acceptes que aujourd'hui, tu es... Ce n'est pas pour être méchante, mais plus évoluée d'une certaine manière que cet environnement que tu laisses derrière toi. Cet environnement-là n'est plus à la hauteur de la manière dont tu veux vivre et tu dois pouvoir l'accepter. La deuxième question, c'est est-ce que c'est normal de ne pas aider quand l'envie n'y est pas? Est-ce que c'est normal de ne pas aider quand l'envie n'y est pas? Ce que j'entends ici, c'est la tension entre la bienveillance et la fatigue. C'est-à-dire, certainement, tu as été habitué à aider, parce que c'est comme ça qu'on nous éduque sous nos cieux. Tu dois tendre la main, tu dois donner même parfois plus que ce que tu as. Mais là, tu ne le veux pas. Et tu te sens certainement coupable parce que tu deviens une mauvaise personne si tu n'aides pas, parce que ce n'est pas comme ça que les choses se passent, parce que ce n'est pas comme ça que tu as été élevé, parce que c'est en contradiction avec les valeurs qui t'ont été inculquées. Et il faut qu'on revienne à ton rapport à la norme. Tout à l'heure, j'ai parlé de valeur. La valeur est une norme. Elle dicte la manière dont tu te comportes, la manière dont tu vis ta vie. Est-ce que, pour toi, il est anormal de ne pas aider, même si on a les moyens de le faire? Je vais aller un peu plus loin et je vais te demander, quelle est la valeur de ton aide à tes yeux? Est-ce que tu es prête à aider en nourrissant du ressentiment envers la personne? Parce que tu t'es senti obligé de l'aider. Est-ce qu'à tes yeux, c'était de l'aide valide? Est-ce que l'aide signifie te mettre toi dans l'inconfort? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être dans une atmosphère où l'aide, qui est quelque chose de positif, reste positive pour les deux parties? Si je n'ai pas envie de t'aider, si je ne suis pas dans les dispositions pour t'aider, si je n'ai pas les ressources pour t'aider, je ne le fais pas. Et quand je parle de ressources, je parle d'argent, ressources matérielles, je parle de ressources émotionnelles, je parle aussi d'énergie. Parce que quand tu dis « je ne veux pas », je ne pense pas que tout soit à ta disposition et tu dis juste un non catégorique pour rien. Il y a certainement une ressource que tu n'as pas. Est-ce que tu n'es pas dans les bonnes dispositions émotionnelles? Est-ce que c'est une question d'énergie? Tu ne peux pas en ce moment, tu ne veux pas dépenser de l'énergie pour ça. Ce qui est valide. Tu ne peux pas donner plus de ressources que tu en as. Généralement, on se focalise sur les ressources matérielles, mais ça va au-delà de ça. Il faut aussi que tu fasses la différence entre amour et obligation morale. C'est quoi aimer son prochain, pour parler de manière un petit peu biblique? Est-ce que tu aimes par obligation? Est-ce que tu donnes par obligation? Est-ce que tu donnes par volonté? Parce que ça te fait plaisir de donner. Il faut que tu puisses redéfinir ce que c'est pour toi la norme. Est-ce que la valeur de l'aide, comment on te l'a inculquée, c'est comme ça que toi, tu la ressens, c'est comme ça que toi, tu la vis. Et là, on a encore un déphasage. Je reviens encore sur le guide Essence dont j'ai parlé au départ, mon guide qui est en ligne et qui est offert et que tu peux télécharger quand tu veux. Le lien est dans la description de cet épisode. Il te permet de faire la différence entre les automatismes que tu as acquis et la manière dont toi, tu veux faire les choses. Parce que souvent, on se dit, je deviens une mauvaise personne parce que je ne fais plus les choses comme je faisais avant. Tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de questionner, tu as le droit de changer. Tu dois te donner cette autorisation. Passons à la troisième question. Celle-là est intéressante. Elle parle d'amour. Elle parle de relations amoureuses. Elle parle de rapport à soi et de rapport à l'autre. Comment je dois réagir quand mon petit ami me dit qu'il est déçu de ma prise de poids? Quand j'ai lu cette question, je me suis énervée. J'ai dû me calmer avant de commencer l'épisode. Et puis pour le nommer, c'est-à-dire que quand je me fâche, je me gâte ici, au micro. Donc on va aller doucement. Qu'est-ce que j'entends par la question? Le rapport de sa valeur dans les yeux de l'autre et l'amour conditionnel. On parle souvent d'amour inconditionnel, mais là, on a l'amour conditionnel. C'est-à-dire que je t'aime tant que tu ne me déçois pas, sachant que ce qui me déçoit ne dépend que de mes critères à moi. Généralement, la personne qui nous fait nous sentir belles, qui nous fait nous sentir désirables, qui nous fait nous sentir femmes, tout simplement, c'est la personne avec qui on est. C'est dans ses yeux qu'on se voit, qu'on voit la meilleure version physique de nous surtout. Parce que c'est la personne qui nous dit tous les jours qu'on est belle, qu'on est désirable, qu'on est appréciable, qu'on est bien habillée et tout ce que tu veux. Et souvent, on a tendance à penser que si cette personne ne nous désire plus comme avant, on ne nous voit plus comme avant, on perd sa valeur. Si on déçoit la personne par rapport au style qu'il veut, qu'elle veut la personne, qu'elle veut qu'on ait, c'est nous le problème. La question que j'ai posée, c'est quel était l'accord de départ? Est-ce que quand on est mis ensemble, il était question pour toi de garder le même corps? Si tu as dit, si c'est oui, c'est un problème. Si tu as dit oui à ça, je vais dire que tu as certainement un souci de valorisation de toi-même. Parce que premièrement, tu ne peux pas garder le même corps toute ta vie. Ce n'est pas possible. Tu auras des montées d'hormones. Tu auras des moments de dépression, tu vas manger plus que souvent. Tu auras des moments où tu ne feras pas de sport, si jamais tu en fais. Tu auras des grossesses. Tu auras énormément de choses qui font en sorte que ton physique ne peut pas être un outil de déception ou de non-déception pour quelqu'un. Et tu ne peux pas assurer à qui que ce soit que tu garderas le même corps toute ta vie. Not possible. La validation externe est importante souvent pour beaucoup, pour la manière dont on se perçoit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la validation de la personne avec qui on partage notre vie, la personne qu'on aime d'amour, est souvent très importante pour comment est-ce qu'on se perçoit. Ça peut très vite devenir d'une certaine forme de violence. Je dirais violence parce que tu veux te changer pour apaiser la personne. Elle le sait, elle le ressent et elle joue dessus pour avoir une emprise sur toi. La question est, c'est comment est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois réagir quand ça m'arrive? Pose-toi la question de savoir ce que tu vois à tes propres yeux. Demande-toi si tu veux vivre ta vie avec une personne qui est déçue, parce que c'est un mot très fort, déçue par ta prise de poids. Demande-toi si tu ne préfères pas être avec quelqu'un qui te dira, tu es en train de changer, what is happening? Is everything okay? Comment est-ce que je fais pour que tu retrouves ta forme habituelle, si jamais tu veux la retrouver? What can we do together? Tu me déçois signifie tu es devenu un problème, règle-le pour que je ne sois plus déçu. And this is a problem. Et ça, c'est vraiment en phase avec ce que je disais au départ. Quand tu vis ta vie selon la manière dont les autres veulent que tu la vives. Parce que quand tu poses la question, je dirais que je ressens que pour toi, c'est normal de garder le corps qu'on avait avant. C'est anormal de changer. Donc, comment je réagis quand ils me le disent, que c'est moi le problème, que c'est lui le problème? Comment est-ce que je gère ça? Truth is, qui est-ce que tu es pour toi? Que tu aies pris des kilos ou non? Remets-toi au centre de ta réflexion. C'est ça le plus important. Oui, tu te sentiras belle dans les yeux de la personne que tu aimes. Mais est-ce que c'est t'aimer correctement que de te dire « tu me déçois d'avoir pris du poids ». Vous me direz que je suis à cheval sur les mots, je l'ai toujours été. Parce que c'est par les mots qu'on communique. C'est par les mots que je comprends ce que tu me dis. Et si tu me dis que tu es déçu, c'est énorme. C'est violent, c'est blessant. Ça peut même être insultant. Avant qu'on ne sorte les armes, pose-toi et demande à la personne ce qu'elle entend par déçu. Parce que ce que moi j'entends par déçu, ce n'est pas bon. La quatrième question porte sur le rapport à la famille. Comment établir des limites saines avec ma mère concernant mes choix de vie sans rompre notre relation? Ce que j'entends moi, c'est trouver l'équilibre entre l'autonomie et le lien / l'autorité familiale. Le souci, très souvent quand on parle de limites, c'est qu'on a l'impression que les limites marquent la fin de tout. Ça marque la fin des relations. Poser une limite et dire à l'autre, tu ne me sers plus à rien. Ça n'a rien à voir. Et c'est très bien qu'on en parle dans ce contexte familial. La famille est l'élément, le cercle le biotope, si tu veux, dans lequel tu grandis. On te connaît bébé et on t'aide à évoluer. Très souvent, quand il s'agit surtout des parents, on reste un enfant à leurs yeux. C'est à eux de nous dire comment on vit nos vies. C'est à eux de nous protéger de ce qu'ils pensent qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. C'est à eux de nous guider dans nos choix et dans nos vies. Est-ce que ça part d'un mauvais sentiment? Non. Est-ce que ça peut devenir mauvais sur le long terme? Oui. Parce que plus on grandit, plus on gagne en autonomie et plus on reprend l'autorité sur nous-mêmes. Très souvent, quand on parle de limites, la peur, c'est comment est-ce que je fais les choses sans secouer les cœurs? Comment est-ce que je fais les choses sans que personne ne se fâche? Mais ce n'est pas possible. Si tu veux, reclaim l'autorité sur toi, tu dois la prendre à quelqu'un. L'idée n'est pas d'aller et de dire à ta mère, tu ne me sers plus à rien. C'est de lui faire comprendre que tu es une adulte, que tu vis comme une adulte, que tu prends tes décisions, que tu les assumes. Et je me souviens, j'ai accompagné une jeune dame qui avait ce souci-là. Et dans le travail ensemble, je lui avais dit, est-ce que tu te comportes comme une adulte à leurs yeux ou alors tu occupes au quotidien cette place de bébé qu'ils te donnent? Et quand on a travaillé, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'elle s'assumait, elle avait un travail, elle vivait seule, elle avait presque 30 ans, she was still behaving like a child, qu'elle s'agissait de sa famille. Ça déjà, c'est un point sur lequel il faut travailler. Ensuite, on a la culpabilité familiale, la peur de décevoir sa famille. Avec la famille, le plus grand problème souvent, c'est ce qu'on appelle la loyauté invisible. Tu as l'impression que pour être loyal envers ta famille, il faut que tu sois respectueuse. Mais que signifie être respectueux? Est-ce que être respectueux, c'est avoir un comportement respectueux, c'est-à-dire tu es poli, tu es posé, tu te comportes poliment en fait? Ou alors être respectueux, c'est abandonner ta vie et vivre selon les directives des autres. Pour toi, c'est quoi le respect? Pour toi, c'est quoi la loyauté? Est-ce que loyauté, ça signifie « I have your back no matter what » ou alors ça signifie « J'abandonne ma vie pour te faire plaisir » Quand tu deviens adulte, il y a une chose que je dois comprendre. Ce n'est pas ton rôle de préserver l'image d'enfant que tes parents ont de toi pour qu'ils ne soient pas blessés. Ton rôle, c'est de leur faire comprendre que tu as grandi, que tu as autorité sur toi-même, qu'ils ont fait un bon travail, que tu es quelqu'un qui peut t'assumer au quotidien. La question, c'était comment établir des limites saines avec ma mère sans rompre la relation. Je dis toujours ceci, je le redirai. Si tu veux établir des limites saines, il faut le faire dans le respect. Ne manque de respect à personne. Parce que si tu manques de respect, là, tu casses la relation. Si tu le fais dans le respect, la protection que tu as est la suivante. Si jamais un jour, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de ta famille, que tu veux retourner vers elle, et que tu t'es séparé d'elle de manière irrespectueuse, tu auras l'impression que pour repartir vers elle, il faudra que tu redeviennes la version de toi que tu as été, parce que c'est cette version-là qui est respectueuse. Tu l'as brisée en étant irrespectueuse. Donc, tu reviens à ton modèle de base, celui qui ne t'arrange pas. Don't do that. Même si la personne en face se sent agressée, assure-toi que toi, selon tes standards, tu restes respectueuse. Ça te permet de préserver cette version authentique de toi, quelle que soit la situation. C'est très important. Et je vais revenir une fois de plus sur le guide essence qui te permet de comprendre les loyautés inconscientes. Télécharge-le. La cinquième et dernière question, c'est comment puis-je savoir si je suis orgueilleuse et comment l'apprivoiser? J'aime cette question parce qu'elle vient de quelqu'un que j'ai rencontré personnellement. Et ce que j'entends en connaissant cette personne-là, c'est qu'il faut comprendre la différence entre l'orgueil, l'estime de soi et savoir ce qu'on veut pour soi. Souvent, sous nos cieux, ce qu'on considère comme orgueil, c'est être là pour soi-même, défendre sa propre cause, sa propre personne, sa propre vie, tracer son propre chemin et le faire la tête haute. Le problème que ça pose très souvent, c'est que ça met les gens en face de leurs limites. Ça leur montre ce qu'ils auraient pu faire pour eux, ils ne l'ont pas fait. Et au lieu d'applaudir ce que tu fais, ils te diront, tu penses que tu es meilleure que nous. Tu deviens, à leurs yeux, orgueilleuse. Et le fait que j'utilise ce mot, orgueil, qui est un mot négatif, te fait te questionner toi, sur qui tu es, sur comment tu veux vivre ta vie. Parce que quand tu dis, comment savoir si je suis orgueilleuse et comment l'apprivoiser? L'apprivoiser. Comment ne plus être orgueilleuse à leurs yeux et devenir celle qu'ils veulent que je sois pour pouvoir être apprivoisée justement. Ce que certains appellent orgueil, c'est l'assurance qu'on a sur ce qu'on veut, sur qui on est. Et très souvent, surtout chez les femmes, on va faire la différence, c'est-à-dire qu'on va opposer orgueil et humilité. Orgueil étant l'assurance et humilité étant baisse la tête, tu es une femme, baisse la tête, ne fais pas trop de bruit, ne fais pas de vagues, écoute-nous, suis nos conseils, suis ce qu'on te dit et tout ira bien. Ne deviens pas humble de cette façon-là. Parce que l'orgueil, comme on te le présente, ce n'est pas ça l'orgueil. Être sûr de soi, être sûr de ce qu'on veut pour soi, c'est être centré, être focalisé sur des objectifs. Ce n'est pas être, se sentir supérieur à qui que ce soit. C'est juste vouloir le meilleur pour soi et être prête à faire ce qu'il faut dans les limites de la légalité pour atteindre ce qu'on vise. Ces cinq questions parlent de la même chose et c'est la cohérence intérieure. Ce moment où tu sens que tu changes, mais le monde autour de toi ne suit pas. Tout semble fonctionner, mais toi, tu ne te reconnais plus dans la manière dont ces choses fonctionnent. Pourtant, avant, tu étais plus ou moins à l'aise dedans. Tu es en déphasage avec ton environnement. Le rythme n'est plus le même. Et tu as l'impression que c'est toi le problème. Parce que c'est tout le monde est resté comme ils étaient, que c'est moi qui change, c'est moi le problème. Non, l'évolution est personnelle. Tu ne peux pas prêter ton évolution à ton ami, à ta maman, à ton papa, à ton conjoint. Tu ne peux pas. La peur qu'on a est intimement liée à la valeur de soi qu'on attribue ou alors qu'on retrouve, qu'on veut retrouver dans les yeux des autres. That's what you have to work on. Recentre-toi. Les rôles que tu joues ne sont pas qui tu es. La manière dont les autres te perçoivent n'est pas ton identité. Ne te fige pas. Ne reste pas figé dans une version de toi parce que cette version arrange ton entourage. Et retiens une chose, c'est qu'avant d'être cette version de toi, tu as été une autre version. Une version passée que ces personnes-là n'ont pas rejeté. Tu as le droit de continuer d'évoluer. Et si quelqu'un rejette ta nouvelle version, ce n'est pas ton rôle de l'apaiser en restant une version diminuée de toi. This is not why you are here. Tu es ici pour profiter de ta vie. Tu es ici pour profiter des largesses que le monde t'offre. Et ce n'est pas en te restreignant pour continuer à fit, comment tu dis fit en anglais, en français, pour continuer à correspondre à une vision extérieure de toi. Don't do that. Télécharge le guide Essence. Il ne te dira pas qui tu dois devenir. Il te dira qui tu es vraiment. Je te rappelle que le lien est dans la description de cet épisode. Et ce guide est le premier pas vers un travail plus grand, un travail de fond pour pouvoir laisser vivre la personne merveilleuse que tu es. 1, 2, 3.